Bonjour à tous, bon dimanche. Nous sommes donc au deuxième dimanche après, évidemment, de carême. Et il faut nous concentrer toujours sur ce carême dont nous parlons. Et depuis le concile, l'Église a négligé le carême. Donc on disait autrefois qu'il fallait vraiment faire des efforts. Et les efforts sont très peu demandés. On dit comme ça qu'il faut jeûner un peu vaguement et puis pas manger de viande le vendredi, donc qu'il faudrait faire des efforts. Il faut faire très attention qu'on a rendu le carême dans la masse chrétienne très très faible par rapport à ce qu'on exigeait autrefois dans le carême. C'est le problème de la faiblesse humaine qui s'est installée même dans l'esprit chrétien souvent, et donc faut faire attention de faire un vrai carême, c'est-à-dire il faut pas rester faible et se dire que on fait le carême et ne pas le faire, c'est-à-dire qu'il y a des efforts vraiment à faire pour chacun d'entre nous, nous savons lesquels et nous les faisons pas souvent parce que nous sommes dans un état de faiblesse qui est très commun aujourd'hui, parce que les gens très bien nourris et bien et très bien installés dans leur petit confort, eh bien, ont du mal à en sortir et de faire cet acte de privation qui est une participation, évidemment, à ce que nous dit saint Paul aujourd'hui dans toujours son épître magnifique, où il nous conseille de faire très attention, il faut nous conduire pour plaire à Dieu et pas nous conduire comme les païens le font, c'est-à-dire qui vivent dans ce que saint Paul appelle l'impureté, qui est c'est pas que la pureté du corps, évidemment, la pureté de l'esprit et évidemment, et la pureté du cœur, c'est-à-dire faire l'effort de la charité pour le prochain, faire l'effort de la purification, de ne pas entrer dans les distractions qui nous éloignent de Dieu trop souvent, et pour ce qui concerne l'esprit, nous réajuster à la foi chrétienne qui nous a été révélée par les apôtres et par la Sainte Église depuis 20 siècles, et ne pas tomber dans l'impureté, car l'impureté nous éloigne de Dieu, car elle stérilise la grâce. Un corps qui se livre à l'impureté, comme dit saint Paul, ne peut pas stériliser la grâce sanctifiante, c'est-à-dire empêche le Seigneur d'agir et on se sépare, en quelque sorte, non pas de Dieu, puisque Dieu n'est jamais séparé, c'est nous qui nous séparons de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire nous stérilisons la grâce de Dieu. Donc, faisons toujours cet effort de carême. Un homme faible est un homme qui vit sa vie dans une sorte de d'illusion que je ferai demain ce que je fais pas, parce que on se réveille, on apprend des résolutions et les résolutions ne sont pas faites. Ça veut dire qu'on est dans un état de faiblesse. Donc nous devons demander au Seigneur cette grâce de faire entrer en nous l'effort d'une volonté qui nous identifie à ce que le Seigneur demande. Donc le temps de carême, c'est 40 jours. Il faut essayer de le faire. Donc voilà, je vous encourage et je m'encourage à le faire. Voilà, donc c'est ceci dit, nous avons aujourd'hui le commentaire de ce bel évangile de la Transfiguration qui est un moment très important. Il a été un moment très important pour les apôtres Pierre, Jacques et Jean qui sont des disciples très proches de Jésus. Mais il voit apparaître Moïse et Élie, évidemment, et donc c'est, je l'ai déjà expliqué pendant de nombreuses années, mais c'est très important, Dieu montre à ses apôtres le prophète Élie et Moïse, car c'est la loi et les prophètes qui sont sur Jésus, et Jésus est l'accomplissement et de la loi et des prophètes. Donc c'était important que ces deux personnages apparaissent aux yeux des apôtres qui comprennent pas tout de suite ce qui se passe, parce que l'idée c'est de faire des tentes, c'est-à-dire s'installer pour un petit briefing, un petit déjeuner ou quelque chose comme ça, et les installer sous des tentes pour qu'ils puissent se mettre trois tentes en plus, c'est-à-dire une pour chacun. Vous voyez, les apôtres sont pas tout à fait au fait quand tout à coup le Christ s'illumine et montre vraiment qui il est aux apôtres. Celui qui cheminait avec eux jour après jour dans l'espace-temps comme un humain dont il confessait évidemment la divinité et la filiation avec Dieu, ils n'avaient jamais vu vraiment, ils ont vu les miracles, puisque je dis toujours notre religion est bâtie sur les miracles. Dans l'Ancien Testament, avec Jésus, un nombre incroyable de miracles que l'Évangile ne rend pas exhaustif parce qu'il y en a eu énormément. Il suffit de lire Maria Valtorta ou bien Catherine Emmerich ou Sainte Gertrude même, ceux qui ont vu d'une manière étonnante la vie de Jésus-Christ, pour voir que le nombre de miracles que Jésus a fait. Et ensuite, l'histoire de l'Église se poursuit avec les miracles, c'est-à-dire là où il n'y a pas le miracle, il faut se poser des questions. Et donc quand même des gens se sont éloignés de la branche chrétienne, catholique ou orthodoxe, où on trouve aussi des miracles, il faut se poser la question pourquoi on ne trouve pas de miracles évidents dans ce qui reste, ce qui chemine avec l'histoire, c'est-à-dire la Sainte Église. Donc il faut voir que Jésus, à ce moment-là, leur montre qui il est véritablement, et il devient lumineux d'une manière qui est très spectaculaire. Et les apôtres sont évidemment étonnés de voir Jésus dans sa gloire, qui anticipe la gloire que Jésus va avoir au moment de la résurrection. Et ensuite, il constate que même les vêtements de Jésus deviennent lumineux, c'est-à-dire ses vêtements deviennent plus blancs que la neige. Ça veut dire que tout ce qui est autour de Jésus-Christ, même ses propres vêtements, participe à sa gloire. C'est la future glorification de Jésus, des corps qui seront un jour ressuscités et qui remettront les corps de gloire en avant, comme Jésus le montre dans cet épisode où il contamine même ses vêtements. Et là arrive le grand moment où ils sont pétrifiés, parce que on se souvenait que Dieu avait parlé à Moïse, et Moïse, évidemment, s'est déchaussé, a entendu la voix du Seigneur qui lui donne les commandements qui vont donner le programme du salut dans l'histoire, déjà dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, évidemment, très importants. Mais là, pour la seconde fois, ils entendent, Jacques et Jean avaient déjà entendu, évidemment, le Dieu s'exprimer au moment où le Christ est baptisé par Saint Jean-Baptiste. Et là, ils entendent cette voix qui, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma complaisance, écoutez-le. Évidemment, entendre la voix de Dieu, ça change tout le truc quand on entend la voix de Dieu en direct. Et donc, il tombe la face contre terre, parce que tout juif pieux, entendant la voix de Dieu, se met évidemment par terre, et ils sont choqués d'entendre soudainement la voix de Dieu. Alors, toute cette lumière qui envahit évidemment l'espace de la vision de Pierre, Jacques et Jean est une préparation que Jésus fait pour les préparer, évidemment, à ce qui va arriver, c'est-à-dire les fortifier, parce que Jésus, avant sa résurrection, il va passer quand même toute sa passion et cette horrible crucifixion qu'il sacrifie, qui va le conduire après 3 jours dans la résurrection du tombeau. Et donc il les prépare à ça, donc il leur montre qui il est, au moins pour cela, pour qu'il fortifie les autres. Jean est celui qui va écrire le grand évangile, évidemment, et l'évangile sans doute le plus spirituel des 4 évangiles. Pierre est celui qui va diriger l'Église et diriger les communautés chrétiennes, et qui après va partir, et qui laisse évidemment la responsabilité de Jérusalem à Saint Jacques, qui va être ensuite martyrisé, évidemment, par les Juifs. Donc ces 3 personnages très importants, Jésus les choisit pour qu'ils fortifient leurs frères. Et cette lumière qui est donnée, c'est une lumière de la fortification pour affronter ce qui va arriver et donner un sens assez fort à l'épreuve qu'ils vont subir à travers. C'est le Christ qui subit l'épreuve, mais eux-mêmes vont subir l'épreuve. D'ailleurs, ils vont eux-mêmes, la plupart, à part Saint Jean, s'échapper devant l'étonnante puissance de ce qui se passe pour Jésus au moment de sa passion. Et la lumière, ils l'ont quand même contemplé, et Jésus leur montre cela. Et par ricochet, nous avons nous aussi cette lumière qui nous est donnée, parce que Jésus va passer 3 jours dans le tombeau. Et cette lumière dont Jésus resplendit dans l'invisible, mais qui est sa réalité profonde, toute sa divinité qui est enfermée en quelque sorte dans son humanité, elle resplendit à nouveau dans le tombeau lorsque Jésus ressuscite. Et qu'est-ce qui nous est donné? Cette lumière du Christ, qui est la lumière du monde, puisqu'on le dit, Jésus est la lumière du monde, eh bien, nous avons le Saint-Suaire de Turin. C'est une préparation de ce qui nous est laissé ensuite, ce qu'ont vu les apôtres, Ils ont vu la lumière du Christ, et nous, nous voyons la lumière du Christ à travers ce qui est laissé à nos saints sur du Rhin, puisque Jésus a ressuscité avec une lumière vive qui a marqué les linges. Et donc, c'est un signe pour notre époque de ce que le Christ, cette lumière du Christ que les apôtres ont pu contempler sur le mont Tabor, elle est pour nous aujourd'hui dans le sanctuaire de Turin qui nous est donné parce qu'il a fallu attendre le XXe siècle, transporter 20 siècles d'un linge. Et aujourd'hui, la science nous révèle qu'on ne peut pas expliquer comment cette lumière a surgi dans le linge sans le brûler, mais en brûlant simplement quelques microns qui donnent le visage du Christ. Donc le Christ se manifeste à nous dans sa mort, et dans cette mort est manifestée en même temps sa résurrection, car la lumière surgit dans la ténèbre du tombeau. Et elle nous est donnée dans la méditation que nous devons faire, nous, sur ce qui nous est donné aujourd'hui, comme étant un des grands miracles du Saint-Suaire de Turin, c'est-à-dire le témoignage de la lumière du Christ que les apôtres ont vu et dont nous avons la trace dans le Saint-Suaire de Turin, dont nous avons la trace dans les grands miracles que le Seigneur fait pour tous ces saints qui ont illuminé l'histoire. Je pense aux grandes manifestations. Je pense au miracle du soleil de Fatima. C'est encore la lumière du Christ qui travaille à Fatima à travers la Sainte Vierge, qu'on a déclaré ne pas être digne de la co-rédemption. Bon, ça, chacun, c'est ce qui a été décrété, mais nous avons quand même la possibilité de croire. C'est un décret qui est d'une manière pour beaucoup étrange, la médiatrice cité grâce, mais la Sainte Vierge à Fatima se manifeste dans le miracle du soleil, et c'est toujours la lumière du Christ. C'est pas la Sainte Vierge elle-même qui fait le miracle, c'est la Sainte Vierge qui se tournait vers le Christ pour la propagation de la foi, pour pas que la Sainte Vierge soit déclarée elle-même divine, puisque ça c'est évident que non, mais elle est en tout cas la médiatrice des grâces, et c'est la lumière du Christ qui brille dans tous les miracles que font les saints. Aucun saint de faire un miracle pour lui-même ou par lui-même. Tous les miracles qui sont faits par la puissance du Christ et par ce qu'est le Christ en réalité, c'est-à-dire vraiment Dieu et vraiment homme, mais sa divinité est toujours en acte dans l'espace-temps des 20 siècles que nous vivons, et on voit chaque fois que c'est l'action du Christ qui est importante, et là, il est donné à contempler aux apôtres, pour les fortifier par rapport à la passion qui va venir, et nous est donné encore les miracles qui sont les miracles attachés à notre Église, qu'on pense aux miracles qui sont faits par Charbel, par les Pères Païssos ou Porphyrios, les grands saints, Saint Silouane, les saints comme Bernadette de Soubirous, tous les saints, Yvonne-Aimée de Malétroit, et les prophètes que la loi, c'est l'Église, et les prophètes, c'est les prophètes que Dieu a envoyés dans son Église. Donc vous cherchez et vous trouvez qui ? Vous trouvez Marie-Julie de Bretagne, vous trouvez des saints qui ont prophétisé, Marie-Yvonne de Malétroit, vous trouvez des saints à qui Dieu a donné un système prophétique. Donc la loi et les prophètes, elles existent toujours. La loi, c'est la loi que l'Église a fixée, donc on ne peut pas déroger à ce que l'Église a fixé depuis 20 siècles. Y déroger aujourd'hui même dans l'Église, c'est dangereux, parce que nous devons rester fidèles à la loi qui a été fixée depuis 20 siècles par l'Église, et en même temps, écouter les prophètes, parce que quand la Vierge apparaît dans plusieurs endroits ou à travers quelques grands mystiques comme Marthe Robin et dire que le monde va mal et que le péché s'installe et que nous devons nous fortifier et vivre en carême sur nous-mêmes pour nous fortifier, changer et nous mettre dans la loi de Dieu, ce n'est jamais que un avertissement prophétique qui est donné pour redresser ce qui est souvent un peu tordu. Quand la Vierge apparaît à la Salette, elle dit un certain nombre de choses qui concernent même l'Église, et elle dit « Faites attention, les prêtres sont devenus un cloaque d'impureté », on le sait par les prophètes, parce que c'est pas le pape qui dit « Mon Église est devenue un cloaque d'impureté », mais on voit bien dans les événements qui se sont produits, et il n'y a pas que des bons bergers, il y a parfois des bergers redoutablement tournés vers le péché, et c'est pourquoi Saint Paul a raison dans l'histoire chrétienne chaque année de nous révéler ce que demande le Christ, ce que demande le ciel, c'est-à-dire faites attention à la pureté de votre esprit, faites attention à la pureté de votre cœur, c'est-à-dire faites les efforts de la charité, Soyez vigilants pour votre esprit de ne pas vous égarer dans les fausses doctrines qui, depuis le début, ont été confrontées à l'esprit de l'Église, puisqu'on a eu plein d'hérésies dans l'histoire. Et faites attention à vos corps. Dans un monde de païens, de ceux qui ne croient pas en Dieu, le péché d'impureté est très commun et on ose à peine en parler, on ose à peine reprendre quelqu'un parce que sinon les gens s'en vont et ils font ce que font les dix lépreux que Jésus avait guéris, reviennent seulement deux et les autres s'en vont. C'est comme ça. Donc la prière est essentielle pour que l'œuvre du salut se fasse. La prière, elle est pour chacun d'entre nous, pour notre propre purification, afin d'activer en nous la grâce sanctifiante, que le Seigneur vienne en nous pour nous faire évoluer, comme le dit saint Paul, pour devenir des saints, voilà, donc pour plaire à Dieu. La volonté de Dieu, c'est votre sainteté. Et donc nous devons vivre dans la sainteté et le respect, sans céder à la convoitise comme les nations qui ne connaissent pas Dieu. Mais justement aujourd'hui, nous sommes confrontés à cela, et il faut donc nous mettre dans un état de carême, chacun choisir ce qu'il doit faire comme effort de carême, et s'y tenir afin que notre volonté ne soit pas défaillante, que nous ne soyons pas des chrétiens médiocres qui, comme beaucoup de gens dans le monde, ramollis par les temps, et pas seulement dans le christianisme, sont ces gens qui ne font jamais rien, qui n'impriment jamais rien, mais qui rêvent leur vie, la réussite de leur vie dans le domaine spirituel comme dans le domaine économique d'ailleurs, de la réussite de la vie des païens. Chez les païens ne réussissent que ceux qui font la volonté, véritablement une volonté de faire, et on voit ceux qui dirigent le monde, leur volonté de faire, ils s'enfoncent dans leurs choses. Et les autres, ce sont les moutons qui sont gouvernés par des bergers, qui sont les mauvais bergers, mais ils ne bougent jamais. Ils sont, ah oui, c'est dommage, ah oui, oui, on voit ce qui se passe, l'euro numérique, l'intelligence artificielle, tout le monde jacasse, mais personne ne prend le deal. Ce sont les leaders du mal, et sont ceux les apôtres du mal, sont là aussi, et eux, ils ont la volonté. C'est le monde qui marche comme ça. Et dans le monde chrétien, nous-mêmes, dans le monde, dans le camp de ceux qui veulent suivre le Christ, nous-mêmes, il y a c'est les mêmes personnes qui sont chrétiennes, qui sont vaguement baptisées, qui vont vaguement assister de temps en temps aux offices du Seigneur, à la convocation du Seigneur de l'Église, mais ils font pas les choses, c'est-à-dire ils décident pas, ils décident, ils vivent leur vie spirituelle en disant « Ah oui, demain je ferai un effort ». Et ça, ils arrivent souvent dans le tombeau, près du cercueil, sans avoir jamais rien fait vraiment, et c'est de la différence avec les saints qui sont des héros de la volonté et qui eux ont bougé les choses au point que, ayant superactivé la grâce sanctifiante, et le Seigneur même se révèle à eux d'une manière manifeste, ou s'il ne se révèle pas, il leur donne cette puissance de faire ces transformations qui font les grands saints comme saint François d'Assise, comme saint Thomas d'Aquin, qui saint Augustin, ces grands noms qui transforment vraiment la vie spirituelle, ou bien ces femmes comme Marie-Yvonne et Bédemalétroit, qui sont des femmes qui partent de rien et qui arrivent à être des monuments de la transformation, comme Charles de Foucault, qui crée quand même cette spiritualité magnifique du désert de Saint-Charles, ou bien le père Maximien Kolbe qui va fonder des couvents partout, et les couvents, ce couvent au Japon qui, lorsque la guerre mondiale éclate et qu'on envoie une bombe nucléaire, sont à quelques centaines de mètres, mais on y prie le rosaire, c'est-à-dire on y prie la Sainte Vierge, la protectrice et la lumière du mal qui se produit dans la nucléarisation du Japon, ne les atteint pas, parce qu'ils ont une autre lumière, la lumière divine qui est portée par la grâce des saints et de la Sainte Vierge en particulier, vous voyez, donc c'est tout simple. Nous devons nous attacher à nous fortifier, à faire vivre en nous, par notre volonté, qui est un effort nécessaire pour activer en nous la grâce sanctifiante. Le Seigneur veut nous donner toutes ses grâces, c'est nous simplement qui, parce que nous ne sommes pas très vigoureux, nous n'activons pas les effets de la grâce sanctifiante en nous, et donc il faut faire, c'est pour ça que l'Église a institué le carême, les carêmes, parce qu'il y a un autre carême avant Noël, pour les grandes fêtes, et que ces 40 jours correspondent aux 40 jours dans le désert du peuple hébreu qui sort de de l'esclavage d'Égypte pour trouver la terre promise. Donc ces 40 jours où ils ont eu manqué d'eau et de où les miracles les ont accompagnés quand même, parce qu'on a fait surgir de Roger la manne, les a nourris, et de même pour nous le message de Jésus qui passe 40 jours dans le désert avant de commencer sa mission. Pourquoi le Seigneur le fait? C'est pas simplement parce qu'il veut faire le fakir, c'est qu'il veut nous montrer qu'il y a une nécessaire activation de la privation qui développe la volonté, que nous devons à tout prix accepter en nous le mystère de la privation qui anticipe tout simplement le mystère de la croix que nous devons porter les uns les autres. Donc il faut s'attacher à un carême plus rigoureux que ce qu'aujourd'hui souvent l'Église a un peu négligé ce côté du carême. On dit simplement oui, ben, carême, il faut être plus gentil avec son prochain, il faut faire des sourires et tout, mais c'est pas suffisant. Il faut que nous travaillions sur notre propre volonté afin que notre corps, notre esprit et notre cœur soient activés par le carême. Voilà, nous prions aujourd'hui pour les enfants avortés, puisque c'est les 4 premiers jours. Nous sommes le 1er mars, nous avons 2 événements importants. Les enfants avortés, évidemment, nous prions pour Lydia qui a demandé des prières. Voilà, les enfants avortés, dont le bon Dieu prend soin, évidemment, sinon il n'est pas le bon Dieu, mais pour que la miséricorde de Dieu vienne sur ceux qui se repentent de ces choses dans le monde des vivants, que aussi l'Esprit de Dieu frappe certaines consciences dans le bon sens par un miracle des prières qui sont portées évidemment par l'Église et par les gens qui prient pour cela, et aussi pour que les défunts qui sont endormis et qui n'ont pas payé la note, qui n'ont pas eu le temps, qui sont repentis mais qui ont fait des choses terribles, puissent être soulagés dans l'invisible, évidemment, mais nous prions pour cela. Je voudrais prier aussi pour la paix dans le monde. Nous avons un événement hier, qu'une grande guerre s'est déclarée, qui n'est pas une mince affaire, et donc il faut faire très attention que les temps vont changer. Nous ne sommes plus dans la même situation avant et après ce début de guerre qui est très grave, et donc tout cela, nous devons le porter dans la prière, demander la paix à la Reine de la Paix, à la Sainte Vierge, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi, de gens qui vont souffrir dans tout cet Orient, et nous aurons les ricochets inévitablement de ce qui se passe en Orient pour la cupidité, c'est-à-dire pour la cupidité de ceux qui vendent les armes et qui font l'argent et qui n'hésitent pas à tuer, et pour ça, pour des gens qui veulent s'emparer de puissance et qui sont prêts à faire souffrir des millions de gens. La crise est grave, et donc nous devons nous préparer, nous, dans la prière, simplement, et prier tous les jours pour nous mettre évidemment à l'écoute de l'œuvre de Dieu, pour nos villages, pour ce pays qui est la France, notre mère patrie, et prier pour la paix dans le monde, parce que nous aurons forcément des éclaboussures, et on voit bien que les temps vont devenir difficiles à partir de maintenant. C'est un événement important quand même qui s'est passé, et c'est amusant que nous soyons en même temps le premier du mois, que ce soit aujourd'hui l'évangile de la transfiguration, parce que nous avons le témoignage de ce qu'est le Christ, véritablement la lumière du monde, qui illumine tout ce qu'il touche, et tout ce qui veut bien se laisser toucher par lui. Et nous avons les miracles qui sont attachés à notre vie chrétienne, et ce reflet de la lumière du Christ se retrouve encore dans le sanctuaire. Donc intéressons-nous au sanctuaire. Il y a des tas de vidéos, il y a des tas de livres qui sont parus. C'est un phénomène extraordinaire. Intéressons-nous à ce que cette lumière nous a été donnée, et donc nous ne pouvons pas rester insensibles aux signes qui nous sont donnés, les signes du temps qui nous sont donnés à cette génération. Merci, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.